Vous êtes toujours sur BXFM, la radio pop rock de Bruxelles, qui est sortie de son studio, puisque maintenant c'est possible, et on est en direct depuis les Halles Saint-Géry, à l'occasion de l'inauguration consacrée à l'exposition des 40 ans du Mirano. Et sur les 40 ans, les 4 décennies, il y a un acteur extrêmement important qui est là, c'est Karl de Montcharline. Bonsoir Karl.
Salut à tous.
Comment tu vas?
Toujours bien.
Je te livre aux mains expertes de Pierre Chaudoir, qui a 1000 questions à te poser.
Oui, quelle main expert, directeur artistique, le Ouzouz Folie. Comment t'es arrivé au Mirano? Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Qu'est-ce qui t'amène là?
Je suis passé comme assistant direction artistique de Marco Roland, qui était le premier directeur artistique du Mirano.
Fondateur du Mirano, voilà, faut-il dire.
Chez Cacom.
Ouais.
Et de fil en aiguille, je suis passé de chez Cacom au Mirano.
Et quelle a été ta patte? Qu'est-ce que tu y as apporté au Mirano? Moi, je le sais, mais les auditeurs, il faut que tu leur expliques.
Ben, le changement est arrivé avec la musique, en fin de compte. Hein, donc, on a incarné une nouvelle génération qui écoutait un nouveau son. Et c'était la première grande rupture du Mirano. Elle avait déjà eu lieu 2-3 ans au préalable en Flandre. Plus, un petit peu à Bruxelles avec Phil Alka qui était ici, qui a fait la première soirée, on va dire, acide, new beat à Bruxelles, gare centrale.
Ouais.
Et disons qu'on l'a implémenté au Mirano de manière un peu plus officielle. Et de ça est partie une décennie, quoi.
Tu étais directeur artistique, c'est ça, hein?
Oui, tout à fait.
Et en quoi ça consistait alors ton travail exactement?
Mais nous, on reprenait déjà toute la production interne du Mirano, donc tous les blockbusters du Mirano. Hein, donc on suivait le chemin et puis on essayait d'innover chacun avec sa petite patte. Et donc moi, dans mon cas, j'ai mis un bateau dans le Mirano qui était amusant. J'ai mis un Goldorak géant qui était amusant. J'ai mis la piste tournante qui était amusante.
Et donc, c'est toi la piste tournante.
Ouais,
ça m'a valu quelques moments de contrariété. Hein, pour ce que, comme disait Pierre tout à l'heure, pour y rentrer, pas de problème, c'est pour en sortir.
Que avec élégance, un peu plus compliqué.
Avec élégance. Voilà. Avec élégance quand on est bourré.
Alors, on va peut-être parler, Karl, de ton actualité. Hein. C'est l'impérateur, hein, l'empereur Karl. Tu t'es beaucoup battu aussi. Merci pour la Confédération, parce que tu es beaucoup battu, tu es beaucoup exposé. Les solutions, elles se dégagent maintenant ou ça traîne encore dans les solutions gouvernementales?
Mais je crois qu'on ne peut pas faire plus difficile. Hein. 9 mois de fermeture de tout un secteur et secteur parallèle, c'est évidemment énorme. C'est en tout cas pas, en tout cas à mon sens, disproportionné par rapport à la taille de la crise et par rapport aux gens qui sont impactés dans cette crise, je veux dire médicalement. Et donc voilà, nous et moi personnellement, je ne suis pas d'accord sur le sujet. Je ne suis pas d'accord sur les indemnités non plus qu'on nous a légèrement octroyé. Et donc on se bat pour ça, on se bat en justice, on se bat sous le terrain aussi des médias sociaux, etc. Donc pour faire valoir nos droits et enfin obtenir réparation de ces 2 années de fermeture.
Mais l'impérial est ouvert maintenant, si je ne me trompe pas.
On est ouvert depuis...
Mais dans une formule light.
Début mai, mais on a d'abord ouvert jusqu'à 22h le soir. Pour un bar de nuit, c'est plutôt dommageable.
Effectivement, oui.
On nous a fait une petite rallonge à 23h30, ce qui est toujours dommageable. Et donc, on essaye de travailler finalement à l'envers, hein, donc, c'est-à-dire la journée, alors que normalement, on a pu travailler la nuit.
Il y a Radio Maquette raconte que tu aurais comme nouveau sorteur Jürgen Koenig, c'est vrai ça? Le militaire en vadrouille, donc c'est un peu ça. Mais effectivement, on a l'impression que voilà, c'est un peu... Tu as encore de l'espoir de trouver une solution dans les mois qui suivent pour cet été?
Nous, les solutions, on les trouve, hein, on n'a pas le choix, sinon on meurt. Donc on fait avec ce qu'on a et on essaie d'aller de l'avant et on essaie de faire comprendre au public de venir plus tôt, etc., ce qui est actuellement le cas. Et puis on verra par après où ça nous mène. Mais en tout cas, on continue à se battre.
On va faire une petite pause et écouter un disque. Et ensuite, on parle quand même des soirées Wooz Wooz Follies, puisqu'on est là pour parler du Mirano. Et les Wooz Wooz Follies et le Wooz Wooz Land, c'est quand même des moments juste déments. Nous sommes toujours avec Karl de Montcharline. Et comme nous vous l'avions dit avant la petite pause musicale, on va maintenant parler des soirées Wooz Wooz Follies qui, au Mirano, ont été, pour moi en tout cas, un tournant. Et je dois t'avouer une chose, Karl, je ne sais pas si tu le sais, je connais quand même depuis des années. Je suis arrivé au Mirano quelque part grâce à toi, grâce aux soirées Wooz Wooz Follies. Et j'aimerais que tu expliques à celles et ceux qui nous écoutent quelle était l'ambiance, quelle était l'idée du Wooz Wooz Follies. C'était quoi?
Ouais, c'était un mélange de jet set et de folie. Donc on était quand même au Mirano qui était le club emblématique en Belgique. Et donc forcément la barre était placée haut. On reprenait la direction artistique après Étienne Rousseau qui avait déjà mis la barre très très haut aussi. Donc il fallait quand même être un petit peu innovant et pas se lourder, quoi. Et donc, c'est toute une époque, si tu veux, où d'une part musicalement, il y a effectivement le début de la house, la techno qui arrive, mais il y a aussi toute l'industrie du vêtement qui est en train de changer avec le streetwear et le clubwear.
C'était en quelle année? Grosso modo.
Ça, c'est début des années 90. Hein,
D'accord. Ouais.
Donc ça se perd pas tout de suite. Hein, donc ça va crescendo. Les wouzous sont arrivés relativement tard, hein, je pense. Elles sont arrivées en 93 ou en 94 dans ces eaux-là.
Et le wouzous, c'est pas uniquement les soirées, c'est aussi des produits dérivés. Tu as parlé des vêtements. Il y a aussi des compilations qui sont sorties, qu'on pouvait acheter. Donc tu étais à la manœuvre derrière chacune des choses qui se produisaient et qui avaient la signature Wooz Wooz Feliz, ou bien tu t'occupais uniquement de l'artistique au Mirano?
Les gens ont du mal à s'imaginer que la musique passait pas à la radio, tout simplement.
Tiens donc.
Alors, je sais bien qu'après, l'RTBF a fait limite des leçons et des cours en disant oui, c'est au moins venu de là-bas, etc. Mais enfin, ça passait pas chez eux, en tout cas. Hein. Donc, les seuls moments où on pouvait écouter cette musique, c'était finalement en club. Sinon c'était impossible, il n'y avait pas YouTube encore ni rien, donc les gens n'avaient absolument pas accès à cette musique.
Vous étiez donc prescripteur de tendance, parce que j'imagine qu'après avoir entendu un disque, on essayait d'avoir les coordonnées pour aller l'acheter chez le disquaire, chez US Import, chez New Top 30, etc. Donc c'était plus que des soirées, c'était un concept
total.
Oui,
il y a eu le début du CD, donc forcément on a commencé à produire les CD qu'après on a vendus. Mais les gens pouvaient tout à coup acheter de la musique qu'on n'entendait nulle part.
Et quel est ton souvenir le plus fou, si tu devais en conserver qu'un seul par rapport à tes années Mirano?
C'est
vraiment une question compliquée, mais voilà, c'est l'exercice.
C'est demain, tu vas dire demain, il faut répondre demain.
C'est vraiment compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui sont passées. Et puis moi je suis pas du tout nostalgique, je regarde jamais en arrière. Et il y a tellement de moments de plaisir, de bonheur.
Allez, on va faire un exercice, ferme les yeux.
Non, mais moi, chaque fois que je réussissais une soirée, c'était bingo, c'était agréable, forcément, tu vois.
Il n'y a pas un truc où tu te dis « Ah, ça, c'était génial ici ».
Non, je me rappelle un truc qui n'était pas génial, c'est la seule soirée que j'ai ratée, parce que j'en ai fait une en deux jours, et en pensant que les gens allaient venir sur les deux jours, et les gens payaient, en fait, c'est pour un 21 juillet, et les gens payaient le pass
du haut,
pour le week-end,
ouais.
Ils ont pris le pass pour le week-end, donc ça a été rentable au niveau des tickets d'entrée, mais par contre, les bars ont morflé, quoi. Et donc là, ouais, j'étais quand même pas. Je suis monté dans mon bureau. c'est pas Guyane, un Mirano qui vide, c'est vraiment pas drôle. Hein.
Et bien, en tout cas, on te remercie pour tout ce que tu as fait au Mirano, tout ce que tu continues à faire pour le milieu de la nuit. Le combat n'est pas fini. Tu l'as expliqué dans la partie de l'interview juste avant. Et on invite nos auditrices et nos auditeurs à venir soutenir l'Impérial, si c'est possible, qui se trouve dans un endroit juste magnifique. C'est des anciennes missions d'édition de Code Juridique, je crois.
Voilà, 67 rue de la Régence, juste au pied du Palais de Justice.
Merci, Karl.
Avec plaisir, merci à vous.
À bientôt.